France Inter.
Aujourd'hui, 100 ans de physique quantique, raconté par
Julien Bobroff, physicien et professeur à l'université Paris-Saclay.
France Inter. La Terre au carré. Mathieu Vidard.
À la fin du 19e siècle, les rues des grandes villes s'illuminent peu à peu de la lueur fragile des premières ampoules électriques. Ces globes de verre dans lesquels un filament incandescent rougeoie fascine littéralement le public. Mais derrière cette lumière familière se cache une énigme qui va bouleverser la physique. Car comment exactement fonctionne ce rayonnement? Les ingénieurs veulent des lampes plus efficaces, moins gourmandes en énergie, plus durables. Les physiciens, eux, veulent comprendre la loi universelle qui semble se cacher derrière cette lueur. Le problème paraît simple, chauffer un objet et observer la lumière qu'il émet. On appelle cela le rayonnement du corps noir. Mais à l'époque, les équations de la physique classique échouent lamentablement. Elles prédisent qu'à mesure que la lumière devient plus bleue, vers l'ultraviolet, l'énergie émise devrait croître jusqu'à l'infini. C'est la fameuse catastrophe ultraviolette. Or, les expériences menées notamment dans un institut berlinois disent tout autre chose. Le spectre de lumière atteint un maximum, puis retombe, la théorie et l'expérience ne collent pas. C'est alors qu'intervient un physicien allemand, Max Planck. En 1900, il se penche sur ce casse-tête et pour le résoudre, ose une hypothèse que lui-même juge presque absurde. Et si l'énergie n'était pas continue? Et si elle ne pouvait s'échanger qu'en petits paquets indivisibles, des quantas d'énergie proportionnels à la fréquence de la lumière? Ce n'était d'abord qu'un artifice mathématique, une astuce pour faire coller la théorie à l'expérience, mais cette idée allait saper les fondements de la physique classique. Elle ouvrait une brèche par laquelle allaient s'engouffrer Einstein, Bohr, Heisenberg et tant d'autres, donnant naissance à une nouvelle physique, la physique quantique. Et tout cela, rappelons-le, est parti d'une question très concrète. Pourquoi les ampoules ne rayonnent-elles pas comme prévu? Alors que cette année est célébré le centenaire de la mécanique quantique, née véritablement en 1925 avec les travaux d'Heisenberg et Schrödinger, il est assez fascinant de se souvenir que sa première étincelle est sortie d'un filament chauffé dans une modeste ampoule électrique.
La physique moderne progresse et s'articule selon deux grandes théories. La théorie quantique, formulée en 1925 par Louis de Broglie, et la théorie de la relativité, formulée en deux temps, la relativité restreinte en 1905 et la relativité générale en 1915, par Albert Einstein. Bien entendu, dans de très nombreux cas, elles se complètent, et donc aucune de ces deux théories ne l'emporte sur l'autre.
La voix d'un journaliste français en 1962, son nom Jacques Bloch-Morange. Bonjour Julien Bobroff.
Bonjour.
Vous confirmez qu'aucune des deux théories ne l'emporte sur l'autre?
Oui, les deux théories sont incroyablement robustes, mais ne s'entendent pas bien entre elles.
Ah bon?
Non, ça marche pas très bien.
Il y a conflit, ça s'engueule.
C'est un des grands sujets actuels.
C'est vrai. Est-ce que l'on peut dire que l'ampoule électrique a donné naissance à la physique quantique alors?
Oui, alors elle et plein d'autres problèmes. À la fin du 19e siècle, en fait, on accumulait les problèmes. Fondamentalement, on ne comprenait pas bien ce que c'était que la matière, la lumière et même l'énergie. Et donc il y a eu ce premier choc avec la découverte, l'invention, la théorie de Planck qui dit les choses ne sont plus continues, elles vont fonctionner par petits paquets, hein. Pouf, 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 c'est un peu son idée, il croit pas trop lui-même, mais c'est la seule manière de résoudre ce problème expérimental. Et puis il y en avait plein d'autres, on comprenait pas, par exemple, quand on envoyait de la lumière sur un métal, ce qui se passait, pourquoi ça arrachait les électrons parfois, mais pas tout le temps, on comprenait pas les atomes, on comprenait pas les spectres de lumière. Et donc on était là à essayer de patauger un peu, jusqu'à ce que quelques physiciens un peu audacieux se disent, allez, on fait la révolution et on réinvente toute une façon de comprendre le monde.
Et donc au départ, la physique quantique est née d'un besoin pratique, hein, c'est ça, celui de s'émanciper aussi des lois de la physique classique.
Oui, on était vraiment sur des questions technologiques. C'est souvent ça en science, hein. On imagine souvent qu'on se pose des grandes questions théoriques fondamentales. On part en général de problèmes très concrets, hein. Galilée se posait plein de questions militaires sur les missiles, les catapultes, des choses comme ça. Ben, c'est un peu pareil au début du XXe siècle.
Et donc c'est un défi très concret, on pourrait dire presque industriel, hein, qui a donné naissance à une révolution théorique.
Oui, et ce qui est assez amusant, c'est que au début, on est vraiment sur des questions d'ingénieurs. Et puis très vite, les physiciens s'en emparent, et là, ils partent dans des délires complets qu'on va raconter. Hein. La physique quantique, une des plus belles théories, plus fondamentales, mais aussi une des plus abstraites. Et là, les industriels, ils voient ça au loin et se disent, ça ne nous sert plus du tout à rien. Et ça va revenir à l'industrie, en fait, dans les années 30, 40, 50, et ça va faire la révolution industrielle du XXe siècle.
Alors, Max Planck est souvent cité comme le père de cette nouvelle physique. Qu'est-ce qu'il a proposé de si audacieux, donc en 1900, hein, c'est ça?
Oui. Alors oui, c'est le père au sens où c'est le premier, mais je dirais que quand même ils sont une bonne dizaine de pères de la physique quantique. Max Planck, il a franchi cette première étape de dire l'énergie a l'air de se transférer, de s'échanger par petits paquets entre l'ampoule électrique que vous avez décrite et le reste du monde.
Donc c'est ça, c'est pas continu, hein,
c'est ce pas que continu, vous nous disiez. Et lui, il s'arrête un petit peu là et c'est vraiment Einstein qui va franchir l'étape suivante. Hein. Einstein, toujours Einstein, on est en 1905, il est tout jeune, il est au bureau des brevets en Suisse. Et là, il écrit une théorie géniale pour expliquer un effet, là encore hyper concret, qui était j'envoie de la lumière sur un métal et ça arrache des électrons, mais que pour certaines couleurs. Ce qui n'avait aucun sens. Hein. On se disait, mais si on met beaucoup de lumière, au bout d'un moment, ça va arracher des électrons, quelle que soit la couleur. Et Einstein comprend, dans un coup de génie incroyable, qu'en fait, la seule manière de comprendre ce phénomène, c'est que la lumière soit composée, alors non pas de petits paquets d'énergie, mais carrément de particules individuelles, des photons, on appellera ça après. Et ces petits photons, eux-mêmes, sont quantifiés et ont des énergies par petits paquets.
Qui sont synonymes de lumière aujourd'hui.
Oui, la lumière là, qui m'éclaire dans ce studio, elle est composée de photons quantiques.
Ouais, donc ça, c'est l'effet photoélectrique, c'est ça?
C'est ça. Et d'ailleurs, Einstein aura son prix Nobel pour ça et pas du tout pour la relativité générale. Alors, il aurait mérité 10 prix Nobel, hein, Einstein.
Ouais. Qu'est-ce qu'on appelle la dualité onde-corpuscule, toujours dans cette histoire de la physique quantique, ouais. Julien Bobreuf?
Alors, ce qu'on voit, c'est qu'Einstein, lui, il dit ce qu'on pensait être une onde au 19e siècle, hein, la lumière, c'est une onde. En fait, moi, je dis que c'est des particules. Et l'étape suivante, c'est un jeune Français qui l'a franchi pendant sa thèse, en fait, c'est Louis de Broglie, qui, dans les années 20, dit « Moi, je vous propose l'inverse. N'importe quel objet dont vous pensez que c'est une particule, je vous dis que c'est une onde. Donc, une onde de matière. Donc, vous prenez un atome, en fait, c'est une onde. Vous prenez une molécule, en fait, c'est une onde. Il va décrire cette onde, il va donner ses caractéristiques, sa forme, en fonction de toutes les particules de l'univers. »
Mais il contredit Einstein, hein, ou pas?
Non, il complète Einstein.
Il complète.
Dit, ce que Einstein a dit pour la lumière, moi, je le dis pour la matière. Ouais. Donc, en fait, Einstein et De Broglie, à eux deux, sont en train de dire le monde entier est composé d'objets qui sont un peu intermédiaires entre des ondes et des particules.
La voix de Louis de Broglie, figurez-vous qu'on a retrouvé une archive des actualités françaises de 1967 et il raconte justement cette histoire et ce qu'il a apporté par rapport à ce que Einstein disait.
C'est en 1929 que j'ai reçu le prix Nobel de physique pour la découverte de l'aspect ondulatoire des électrons. En 1905, quand j'avais 13 ans, M. Einstein avait découvert que dans la lumière, il y a non seulement des ondes, comme on le savait depuis longtemps, mais aussi des corpuscules, ce qui lui avait permis d'expliquer l'effet photoélectrique. Et puis j'avais étudié aussi beaucoup la théorie de la relativité. C'est à la suite de toutes ces études que j'ai eu l'idée qu'il fallait étendre à toutes les particules matérielles, et en particulier aux électrons, l'idée que la particule est accompagnée du non-monde. Ceci changeait profondément la mécanique des particules, de telle sorte que certaines apparences ondulatoires apparaissaient, même dans le cas des particules comme des électrons.
Voilà, dans les actualités françaises de 1967, la voix de Louis de Broglie qui aura le Nobel de physique en 1929. Pourquoi d'ailleurs exactement?
Alors exactement pour ça, pour avoir compris fondamentalement que la matière pouvait se comporter comme des ondes quantiques.
Ouais. Alors cette histoire d'ailleurs de physique quantique, c'est une histoire humaine aussi, un vrai collectif de pensées et de physiciens. Il y a énormément de noms qui traversent cette histoire. Il y a Niels Bohr par exemple qui lui aussi va apporter sa pierre à l'édifice. Hein.
Oui, on a une espèce de moment vraiment historique incroyable dans l'histoire des sciences, une espèce de brassage collectif, ils sont peut-être 20, 30, pour la plupart européens, et ils vont se balader les uns chez les autres. Bohr va être un des endroits où on va le plus accueillir les physiciens, mais ça va être aussi en Allemagne, en France, en Angleterre, ils vont pas arrêter de correspondre entre eux, de s'engueuler, de s'écharper, de discuter. Et cet échange humain va faire qu'en 10 ans, en gros, entre 1915 et 1925, ils vont arriver à construire la physique quantique telle qu'on la connaît aujourd'hui. Ouais. C'est absolument prodigieux ce qui s'est passé.
Mais ils étaient tous géniaux en plus.
Ils étaient tous géniaux.
Il y a quand même quelque chose d'incroyable.
Ils étaient plus incroyables les uns que les autres. Et ce qu'il y a de formidable, c'est que c'est pas une seule personne. C'est pas comme la relativité générale où c'est vraiment Einstein qui a fait le grand pas. Là, vraiment, c'est chacun ramenait un truc à part. Et puis ça allait tous les mois, quoi. C'est-à-dire chaque mois, on faisait une découverte supplémentaire pour dire que l'autre avait tort ou raison et se compléter et construire ensemble cet édifice incroyable.
Ça existe encore, ça, en physique, un collectif de pensée comme ça, réunir autant de cerveaux pour résoudre un problème?
Alors oui, mais peut-être pas sur des problèmes aussi généraux. C'est-à-dire qu'il arrive évidemment que quand soudain vont être découverts les condensats de Bose-Einstein, des tas de physiciens et de physiciennes dans le monde vont s'en emparer, s'exciter, faire des conférences, échanger et créer une communauté autour de ça. Mais sur un sujet aussi fondamental que comprendre toute la matière et la lumière, ça c'était quand même unique.
Donc, pour créer une nouvelle théorie, il faut être quand même très nombreux.
Non, on peut être seul, non. Et vraiment génial, ça arrive. Ouais. Mais dans ce cas-là, justement, c'était vraiment collectif.
Alors Niels Bohr, lui, il apporte quoi dans cette histoire ?
Niels Bohr, il se dit, moi je m'attaque à l'atome. C'est-à-dire que Einstein, il a fait la lumière, en gros, Planck, il a fait l'énergie, et Bohr, il attaque le vrai problème, c'est quoi fondamentalement un atome ? On savait que l'atome existait grâce à Jean Perrin, mais on ne comprenait pas bien comment ça marchait. Et donc il va commencer à proposer des modèles qui s'inspirent un peu des planètes, mais pas tout à fait, qui sont quantifiés. Il garde cette idée de discontinuité très forte, ouais. Et il va proposer un modèle qui est faux, en fait, depuis, dont lui-même s'est rendu compte qu'il était faux, mais qui va être la première brique. Et donc souvent, il faut un peu se planter au début pour aider les autres à s'en emparer, à l'améliorer, à finalement arriver au bon modèle de ce qu'on connaît de l'atome maintenant.
Ah ça, c'est génial, parce qu'on peut retenir votre nom, même si vous avez eu faux au départ.
Ouais, et même, on dit toujours que c'est vraiment un des deux, trois plus grands physiciens de la quantique, parce qu'il a accompagné toute cette aventure intellectuelle de façon incroyable. Il a vraiment échangé et challengé chacun des physiciens qui étaient dans la bande à l'époque pour les pousser jusqu'au bout à comprendre fondamentalement ce qu'était la matière et ce qu'était l'atome.
Donc tout le monde peut apporter quelque chose, finalement, hein, à cet édifice. Alors, il y a d'autres noms comme Schrödinger, Heisenberg. Qu'est-ce qu'ils apportent, eux, Julien Bobroff ?
Alors, chacun apporte sa petite pierre. Schrödinger, par exemple, il vous donne l'équation qui permet de comprendre comment cette onde se comporte au cours du temps. Si vous me dites où elle est, ce qui lui arrive, je vous dis ce qu'elle devient grâce à cette équation. Heisenberg, alors Heisenberg, il fait des tas de trucs incroyables, mais notamment, il va proposer une nouvelle façon d'écrire les mathématiques. C'est-à-dire que cette physique-là, on avait envie de la traiter comme on faisait au 19e siècle. Et Heisenberg, avec d'autres, avec Born et avec Jordan notamment, ils disent, on abandonne ça et on va utiliser les matrices. Et donc, ils utilisent un nouveau langage mathématique pour comprendre la nature.
Donc, en plus, il va déborder sur les maths. Hein.
Ah oui, oui, oui. Ouais. Non, c'était tous des matheux remarquables. Et en échangeant avec les meilleurs matheux de l'époque, ils vont arriver à construire ce nouvel édifice à la fois physique et mathématique.
Le nom de Schrödinger, il est toujours associé pour le grand public au chat. Qu'est-ce que ça a à voir avec la physique quantique ?
Alors, le chat Schrödinger, ça vient d'une discussion entre Schrödinger et Einstein. Encore une correspondance, hein, on en parlait. Et où ils se titillaient l'un l'autre à essayer d'imaginer les expériences les plus folles, des expériences de pensée. Et l'expérience du chat Schrödinger, c'était de dire mon équation, l'équation de Schrödinger, prévoit qu'un objet pourrait être dans deux états à la fois. Un atome pourrait être à la fois un endroit et un autre endroit. Et eux, ça leur semblait vraiment curieux à Einstein et à Schrödinger, et donc ils essayaient d'imaginer les expériences les plus folles pour montrer que ça n'avait aucun sens. Donc ils imaginaient un truc avec un chat qu'on coince dans une boîte, on lui accroche un bout de poison qu'on va déclencher avec un atome, et si à la fin, on pourrait vraiment mettre cet atome dans les deux états, le chat il sera à la fois mort et vivant.
Mais c'est quoi le poison alors ?
N'importe quel poison, on s'en fiche. Ce qui comptait, c'était la façon dont on allait casser la fiole de poison, en la reliant à un atome qui serait dans deux états à la fois. Alors c'est un paradoxe qu'on a compris depuis, en fait. On a bien compris que le chat ne sera jamais mort et vivant à la fois. Par contre, à l'échelle quantique, on peut vraiment mettre des objets dans deux états à la fois. Maintenant, on sait le faire en laboratoire.
Ouais. Donc ils auraient pu choisir une fourmi ou une souris, ça aurait été pareil. Alors,
c'est très marrant parce qu'au début, Einstein, il avait choisi une bombe. On était à l'époque des années 30-40 où commençait à y avoir la montée du nazisme. Et lui, il était déjà dans ses idées-là. Et Schrödinger a ramené ça vers un chat et je pense qu'il a bien fait.
Pourquoi 1925 alors est considéré comme le centenaire de la quantique ?
Parce que ça nous arrange. En fait, on a du mal à donner une date précise. Ouais. Soyons honnêtes. Les années d'or, c'est le déclic qu'il a eu en 1925. Parce qu'en 1925, coup sur coup, on a l'équation de Schrödinger, on a le principe d'incertitude, on a le principe d'exclusion, on a toutes les briques qui vont plus bouger depuis et qui vont vraiment établir ce qu'est la quantique et à quel point elle est étrange. Et ça a lieu en 1925.
Ouais. Donc en 10 ou 15 ans, quand même, on passe de la physique classique à un monde, un nouveau monde conceptuel qui n'a plus rien à voir. Hein.
Ouais, c'est étonnant. Une telle révolution, je ne vois pas beaucoup dans l'histoire des sciences, en tous les cas dans l'histoire de la physique, et tout le monde va devoir se reconvertir. Et c'est ça qu'on va voir ensuite, c'est qu'il va y avoir les anciens qui vont dire « mais non, on peut pas », et puis progressivement les gens n'ont plus le choix, ils voient que ça marche tellement bien, que ça décrit tellement bien les expériences qu'il faut s'y mettre. Et donc ça va être un basculement et qui va emmener progressivement aussi vers des applications industrielles.
Ouais, on va en parler évidemment dans un instant. D'ailleurs, est-ce que cette révolution, elle est née à la croisée de l'industrie et de la philosophie ou pas ?
Non, moi je trouve pas. Je pense que vraiment, c'est des physiciens qui, entre eux, se sont excités autour de la physique. Même les liens avec l'art sont pas très évidents. On en a cherché, on n'en a pas trouvé des très clairs. Je crois que c'est vraiment une bulle qui s'est formée intellectuelle à un moment donné dans l'histoire.
Ouais. Et si vous deviez vous résumer cette première phase donc, de l'histoire de la physique quantique, Julien Bobroff, qu'est-ce que vous pourriez nous en dire ?
C'est un brassage intellectuel incroyable pour repenser le monde complètement différemment. Soudain, tout ce qu'on pensait établi n'a plus de sens. Le sens de la trajectoire, maintenant, elle devient floue. Maintenant, il y a du hasard, il y a de l'incertitude. Donc ça oblige pas seulement à faire de la physique différemment, mais à penser la nature différemment.
En tout cas, un siècle plus tard, ça s'est structuré en plusieurs branches, on va le voir, aux frontières parfois très très différentes. Et puis vous répondrez aux questions, aux messages des auditeurs et auditrices, Julien Bobroff, pour parler physique quantique à l'occasion du centenaire de cette théorie.
Mathieu Vidard, la Terre au carré.
La physique quantique n'est pas une avancée. C'est une nouvelle façon de comprendre la réalité. Einstein a ouvert la porte. Désormais, nous scrutons ce qu'elle cachait et découvrons un monde à l'intérieur du nôtre. Un monde fait d'énergie et de paradoxes. que tout le monde n'est pas prêt à accepter.
Le physicien danois Niels Bohr, un des pionniers de la physique quantique, interprété par Kenneth Branagh dans le film Oppenheimer de Christophe Nolan, Julien Bobrov, film que vous avez vu, évidemment. Qu'est-ce que vous en avez pensé d'ailleurs?
Il n'y avait pas assez de quantique, j'étais malheureux. Ils n'expliquaient rien. Moi, j'étais vraiment le physicien pur et dur. Ouais, ils n'expliquaient pas grand-chose.
Ouais. Vous êtes donc physicien, on vous reçoit à l'occasion des 100 ans de la physique quantique. On parlait donc de ce centenaire avec cette date de 1925. D'ailleurs, il est fait allusion dans cet extrait qu'on vient d'entendre d'Oppenheimer au fait que certains physiciens ont refusé, au fond, hein, cette révolution conceptuelle. C'était compliqué aussi de remettre en cause ce cadre de la physique classique.
Mais c'était incroyablement compliqué, à la fois du point de vue des concepts et même techniquement. Il fallait apprendre une nouvelle mathématique. Je veux dire, nous, quand on apprend à nos étudiants la physique quantique, c'est douloureux.
Ouais.
Donc il y avait quelque chose de très violent à devoir abandonner tous ces paradigmes habituels et réapprendre des nouveaux outils.
Et donc ça laissait pas mal de gens sur le bord de la route ou pas ?
Ben oui, mais un peu comme à toute révolution scientifique, j'ai tendance à dire, on les a un peu oubliés dans l'histoire. Donc moi, ouais. Je connais en fait les vainqueurs, hein, ceux qui sont sortis et qui ont eu les prix Nobel, hein, parce que cette bande de physiciens dont on parle ont absolument tous eu le prix Nobel ensuite. Ouais.
Alors après 1925, qu'est-ce qui se passe exactement, Julien Bobrov? Comment s'organise la physique quantique?
Alors la physique quantique reste pas en un bloc, en fait, elle va se diviser et chacun va se prendre un peu sa spécialité. Il suffit de regarder en échelle et on comprend tout de suite ce qui se passe. Il y a ceux qui veulent regarder les choses les plus petites, ce qui se passe à l'intérieur du noyau des atomes. Donc ça, c'est les physiciens des particules. Hein, leurs héritiers maintenant, c'est le CERN, par exemple, et les grands accélérateurs de particules. Et puis c'est aussi évidemment la bombe nucléaire. Hein.
Ouais.
Et donc ces gens-là, ils ont vraiment cherché à comprendre les concepts les plus fondamentaux et les particules et les objets les plus fondamentaux de l'univers, les plus petits.
Qu'est-ce que ça a permis de découvrir, par exemple?
Par exemple, on a pu comprendre en fait ce qui constituait l'univers, hein, c'est-à-dire tout le modèle standard, hein, cette espèce de zoologie qui vous dit toutes les particules qui nous composent, elle a été comprise par ces gens-là. Donc c'est vraiment ce qu'il y a de plus fondamental qu'on puisse imaginer quand on casse un objet en deux, puis en deux, puis en deux. Eux vous disent ce qui vous reste à la fin dans les mains.
Le boson de Higgs, est-ce qu'on
le
doit
boson de Higgs, c'est exactement
c'est
ça.
Cette
voilà, c'est l'héritage de ça. Et puis il y a ceux qui s'intéressaient à des choses un peu plus grosses qui se sont dit, nous on va rester au niveau de l'atome. On va garder l'atome parce qu'on le connaît bien, on va le maîtriser, le gouverner, le contrôler, et peut-être même la molécule, ou peut-être un tout petit objet, mais on reste à l'échelle du nanomètre. Donc là c'est la physique atomique, la physique moléculaire, c'est l'optique quantique. Et ces gens-là vont apprendre à gouverner la matière et la lumière à toute petite échelle de façon incroyable.
Et donc ça on peut manipuler individuellement des atomes.
Oui. Ouais. Maintenant, on sait manipuler un atome, le faire bouger, dessiner des objets avec des atomes. On sait les accrocher entre eux et fabriquer une molécule avec des pinces de laser, par exemple, des pinces optiques. Et donc tout ce savoir-faire s'est développé, c'est eux qui ont inventé le laser, par exemple. C'est eux qui ont compris fondamentalement ce qu'est la chimie au XXIe siècle et au XXe siècle.
Là aussi, il y a eu des Nobel, d'ailleurs, pour toutes
beaucoup
ces découvertes.
Beaucoup de Nobel, bien sûr. Ouais. Ouais, non, mais là, on est en train de parler de dizaines de Nobel à chaque fois. Ouais. Il faut se rendre compte que, de toute façon, le domaine dont on parle, c'est à peu près 70-80% des chercheurs dans le monde aujourd'hui en physique. Et puis, il y a le troisième domaine, qu'on ne connaît pas forcément, alors que c'est le domaine dans lequel travaille le plus grand nombre de physiciens aujourd'hui, c'est le domaine de la matière quantique. C'est-à-dire là, je m'intéresse vraiment au bois dans cette table, mais avec un point de vue quantique. Vous voyez, je vais regarder ce bois et je vais dire, je vais comprendre sa couleur ou je vais comprendre ses propriétés en allant regarder ce qui se passe à l'intérieur au niveau des atomes et des électrons. Donc vous voyez, on fait le chemin inverse, j'ai compris ce qu'est un atome, je vais faire grossir la matière pour finalement comprendre le monde qui m'entoure. Ouais.
Et dans cette table en bois sur laquelle vos mains sont posées, Julien Bobrov, qu'est-ce qui se passe au niveau des atomes alors?
Au niveau des atomes, c'est qu'ils se tiennent les uns les autres. On n'a pas besoin de physique quantique pour le comprendre. Mais la couleur de cette table, par exemple, le fait qu'elle soit beige, ça veut dire qu'en fait, les atomes ils récupèrent la lumière de la pièce et ils absorbent avec des processus quantiques, un peu chers à Niels Bohr par exemple, toutes les couleurs sauf le beige et ils me renvoient le beige. Puis le fait que ma main ne traverse pas cette table, c'est lié au principe d'exclusion de Pauli. Alors que ma main, c'est essentiellement du vide et cette table aussi, elles ne peuvent pas se traverser parce que les électrons n'arrivent pas à aller là où il y a déjà des électrons, etc., etc.
C'est à ça qu'on doit la stabilité, par exemple, de cette table.
Ouais, la solidité et la stabilité de cette table, on la doit à la physique quantique. Avant, on ne comprenait pas pourquoi une table pouvait être une table.
Ouais.
Donc, cette compréhension du monde, ça va être la première étape. Puis la deuxième étape, une fois qu'on a compris, c'est on invente. On fabrique des nouveaux matériaux, on fabrique des nouveaux composés, des nouveaux alliages. Et on gouverne la matière et on lui fait faire ce qu'on veut, alors évidemment dans la limite du possible.
Ouais,
et ce qu'ils vont faire en premier, c'est contrôler les électrons. Et avec ça, ils vont inventer toute l'électronique moderne.
Donc on va en parler effectivement, mais pour continuer un tout petit peu sur cette table, est-ce qu'on pourrait imaginer qu'un jour, justement, ces atomes se désolidarisent et fassent que cette matière devienne très, très mouvante, très molle?
Alors je peux l'évaporer, ça deviendrait un gaz.
Ouais.
Et je suis un peu limité par les limites de la physique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les atomes ont une certaine taille, s'accrochent d'une certaine manière. Par contre, je vais pouvoir m'amuser à essayer de changer les atomes, à essayer de choisir d'autres atomes, à créer une matière qui n'existerait pas à l'état naturel. Donc je ne vais pas lui faire n'importe quoi, il y a quand même les lois de la physique qui vont me rattraper, mais je vais quand même pouvoir inventer des nouveaux matériaux absolument incroyables.
Alors justement, les applications, parce qu'il y en a beaucoup, quand on vous écoute, finalement, on se dit qu'il y a de la quantique partout, non?
Oui,
tout ce qui nous entoure est quasiment quantique, ou
si
pas?
Si on veut comprendre les propriétés de ce qui nous entoure, la chaleur, la métallicité, le magnétisme, tout ça c'est quantique.
Oui.
Les applications, donc, du côté des inventions, elles vont avoir lieu déjà dans les années 50-60. Il va y avoir une grande révolution quantique quand on va commencer à miniaturiser et surtout à inventer les premiers transistors.
Ouais.
Transistor, c'est une sorte d'interrupteur, mais qu'on peut rendre tout petit et qui va être inventé par les physiciens de la quantique. Et derrière ce transistor va être l'arrivée de l'électronique, des microprocesseurs et de tout ce qu'on connaît aujourd'hui, du smartphone à l'ordinateur et à tout ce qui nous entoure. Puis la deuxième révolution, elle a lieu en parallèle du côté de la lumière. On va inventer coup sur coup les lasers et les LED. Et donc on va révolutionner la façon d'illuminer le monde.
Ouais.
Et ça, ça va être vraiment les deux grands pans. Puis il y aura évidemment plein d'autres applications derrière. Par exemple, dans le champ médical, on va inventer plein de façons de regarder dans l'être humain. L'IRM, les rayons X, les scanners, etc. etc.
Tout ça, c'est de la quantique aussi.
Tout ça, c'est de la quantique. C'est des phénomènes quantiques ouais. pour aller voir à l'intérieur de vous sans vous découper, en gros.
Ah, exactement. Et ça, c'est tout à fait pratique. Et alors, nos génies de la physique quantique, là, dans les années 20, est-ce qu'ils avaient déjà mis en place des applications ? C'est venu quand même un peu plus tard. Est-ce que ça n'était que théorique au départ ?
Alors, c'était que théorique au départ, mais ils y pensaient déjà et c'est arrivé assez vite. Hein. Par exemple, quand ils ont compris que l'électron était une onde, ils ont inventé les microscopes électroniques
ouais.
qui ont révolutionné l'art de faire de la microscopie et de voir les objets à petite échelle. Et ils ont pensé très très vite à des nouvelles techniques médicales et puis ils ont pensé très vite à la bombe atomique, il ne faut quand ouais. même pas le nier. Donc la physique quantique a aussi sa part d'ombre.
Donc ça veut dire que les chercheurs de cette époque, de 1925-30, auraient pu imaginer quand même des développements assez fulgurants et des applications aussi de leurs travaux théoriques ?
Oui, et certains les imaginaient déjà et pensaient déjà à l'application dans les solides, mais ils n'avaient pas encore la maîtrise technologique qu'il a fallu avoir. Et en fait, la guerre a beaucoup fait progresser un certain nombre de technologies qui, à la ouais. sortie de la guerre, se sont révélées utiles justement pour inventer, par exemple, l'IRM dans les hôpitaux. Mmh.
La bombe atomique, évidemment, ça a été un moment d'histoire tout à fait particulier, et ça le reste encore d'ailleurs aujourd'hui, qui a posé aussi beaucoup de problèmes de conscience à ces physiciens. Hein.
Oui, oui, tous ont dû se prononcer à un moment donné et se demander s'ils y allaient ou pas. Hein, parce que toute cette bande-là dont je suis en train de parler s'est retrouvée évidemment impliquée de premier chef dans le projet Los Alamos. Et ouais. puis les générations suivantes, hein, on pense à Feynman par exemple ou à d'autres physiciens comme ça. Et donc tous ont été face à ce problème moral. Qu'est-ce qu'on fait ? Si Hitler est en train d'avoir la bombe sur les informations, est-ce qu'on se lance aussi ou pas ? Et derrière arrive Hiroshima et Nagasaki. Mmh. Et donc je crois que ça a façonné une génération et les générations suivantes, c'est-à-dire que je pense que tout physicien ou physicienne qui se respecte ne peut pas ne pas penser à ce qu'il aurait fait à cette époque-là et ne peut pas en tous les cas se poser la question de est-ce qu'il doit s'impliquer par exemple dans des développements militaires ou pas.
Ouais, donc ça veut dire qu'il y a un pan éthique aussi qui est accolé à la physique quantique ?
Oui, mais ça je dirais que c'est accolé à toutes les sciences en général.
Ouais.
Et la physique quantique évidemment on a créé un paroxysme avec ouais. le pouvoir qu'elle a donné de façon décuplée aux êtres humains de détruire le monde, hein, il faut bien le dire. Et donc tout ce qui s'est joué autour du nucléaire militaire, évidemment, a secoué les consciences et les gens ont dû se positionner pour ou contre.
Donc Julien Bobov, on comprend bien que ça a bouleversé complètement notre rapport à la matière, la physique quantique, mais aussi donc aux sociétés. C'est tout à fait lié.
Oui, on peut aussi dire que la grande révolution du XXIe siècle, qui est la révolution des télécommunications et de l'informatique, on la doit à la physique quantique. Donc fondamentalement, tout ce qu'on vit aujourd'hui, en bien ou en moins bien, hein, je ne veux pas me prononcer là-dessus,
ouais.
on le doit à la physique quantique. Hein, les télécommunications dans les fibres optiques, tout ce qui m'entoure à peu près dans ce studio a été inventé grâce à la physique quantique.
Est-ce que vous avez une invention emblématique pour vous, née de la quantique, qui vraiment vous tient particulièrement à cœur, que vous aimez
ah
beaucoup
ouais, moi c'est l'IRM. Parce
ah
que
ouais
moi, j'ai pendant 20 ans de ma vie travaillé dans un laboratoire où on faisait l'équivalent de l'IRM chez les physiciens. Donc c'est une espèce de grosse citerne, hein, vous savez, quand vous allez dans une IRM, dans un hôpital, ouais. pour rentrer dans un machin qui fout un peu la
trouille. C'est pas très agréable.
C'est
ouais.
pas agréable, alors ça n'a aucun effet sur votre corps, hein, je vous rassure. Mais c'était vraiment pour la quintessence de la quantique, c'est-à-dire qu'on va manipuler les aimants des noyaux de vos atomes pour essayer de lire en gros ce qui se passe dans votre corps.
Ouais.
Et je trouve que c'est prodigieux d'arriver à quelque chose d'aussi fondamental et abstrait pour finalement sauver les vies.
Et ça, c'est devenu très banal maintenant.
C'est devenu très banal. Il en a fallu des efforts et des physiciens et des prix Nobel pour arriver à ce prodige qu'on a commencé à découvrir à peu près ouais. dans les années 70.
C'est ça. Et on le croise maintenant absolument partout, ouais. dans les hôpitaux en particulier, sans se rendre compte qu'on a affaire là aussi à de la physique quantique. Au-delà des technologies, la quantique soulève des espoirs, des incertitudes, des questions philosophiques aussi pour le futur. On va en parler dans un instant, Julien Bobrov. Et puis vous converserez, vous répondrez en tout cas aux messages et aux questions qui arrivent pour vous sur la page de la Terre au Carré, nos réseaux sociaux, et puis également, on peut vous entendre avec vos notes vocales sur l'application Radio France.
France Inter. La Terre au Carré. Mathieu Vidard.
Ces objets se trouvent dans un état de superposition. Ils ont plusieurs positions et vitesses simultanément. Tant qu'on ne les observe pas, ils existent dans tous ces états à la fois. Ce n'est que lorsqu'on les observe qu'ils se figent dans un état donné. Cette théorie est propre à la physique quantique.
Autrement dit, avant qu'on l'observe, une particule quantique est comme une page blanche, sans propriété déterminée.
Et ce n'est qu'en regardant cette page blanche qu'elle se couvre de caractères. Les mots apparaissent au fur et à mesure.
Extrait d'un documentaire d'Arte sur la quantique, change-t-elle notre réalité ? Julien Beaubrois, vous qui êtes physicien, notre invité donc pour les 100 ans de la physique quantique. C'est la vraie date d'anniversaire d'ailleurs, c'est...
À peu près, on a décidé tous collectivement que ça serait 100 ans, donc c'était 1925.
1925, mais le mois, il n'y a pas de...
Non, déjà l'année, donc,
on n'est pas trop en retard.
Non, c'est une année un peu quantique.
Ça va, donc il y a pas mal de choses à faire. On en parlera d'ailleurs dans un instant à l'occasion de la fête de la science qui va démarrer ce vendredi. On entendait là dans l'extrait que la particule quantique était comme une page blanche. Vous aimez la métaphore ?
Oui, moi je dirais que c'est plutôt une plage remplie de plein de mathématiques. Donc elle a une sorte d'existence mathématique un peu étrange dans plusieurs états à la fois. Et effectivement, quand on la mesure, eh bien soudain elle choisit un de ces états aléatoirement.
Elle choisit toute seule comme une
grande ? Elle choisit toute seule comme une grande. Elle tire au sort en fait. Elle a des sortes de probabilités et on peut la titiller des millions de fois. Et à chaque fois elle va tirer au sort et on vérifie qu'à chaque fois elle le fait complètement aléatoirement. C'est le plus beau des hasards.
Ouais, mais c'est elle qui décide alors.
Elle n'a pas une conscience propre, hein, faut pas m'emmener vers ça. Mais en effet, elle tire au sort, ou la nature tire au sort pour elle, c'est un des grands mystères de la physique quantique. C'est-à-dire qu'on comprend très bien, tant qu'elle n'est pas tirée au sort, comment elle se comporte, grâce à Schrödinger, on en a parlé. La façon dont elle tire au sort, on le contrôle bien, mais on ne sait pas pourquoi. Fondamentalement, on ne comprend pas bien pourquoi, soudain, elle choisit de se réduire brutalement en un état plutôt qu'un autre état.
Donc le hasard, c'est une notion importante en quantique ?
C'est une notion cruciale en quantique, oui. On a compris que la nature, fondamentalement, est aléatoire.
Oui. Le 21e siècle sera quantique, on entend souvent dire ça. Est-ce que vous partagez cette idée, Julien Beaubrof ?
Alors c'est compliqué, le 21e siècle va être plein de choses. Il sera autant quantique que le 20e siècle, je dirais. C'est-à-dire que, du point de vue de la physique en tous les cas, il est clair qu'une grande partie des grands problèmes et des grands sujets actuels se jouent encore en physique quantique. On pourrait se dire que vu qu'elle a 100 ans, c'est un peu fini, qu'il faut passer à autre chose.
Ouais.
Et c'est pas du tout le cas. Il y a encore beaucoup de sujets complètement ouverts qu'on essaie de traiter grâce à la physique quantique.
Alors, par exemple, qu'est-ce qui se joue en ce moment ?
Le sujet peut-être dont on parle le plus facilement en général au grand public, c'est la gravité quantique. La gravité quantique, on est quand même un peu embêté en physique quantique. Je vous ai vendu un monde un peu rose, on ne comprend pas la gravité. C'est quand même un peu embêtant parce que la gravité, c'est un peu la base de tout ce qu'on connaît en physique. Et cette gravité qu'on comprend très bien avec la relativité générale de Einstein, on ne la comprend pas en physique quantique.
Donc c'est à quoi qu'on n'arrive pas à réconcilier précisément.
Oui, on n'arrive pas à réconcilier les deux, mais on n'a pas du tout une vision quantique de la gravité. On ne sait même pas si elle est quantique, cette gravité. Vous m'avez parlé d'une particule qui pourrait être à deux endroits à la fois. Est-ce que quand elle est à deux endroits à la fois, elle fait une gravité à deux endroits à la fois ? Eh bien, on ne sait pas. C'est un des grands mystères actuels. On se bagarre beaucoup autour de ça. On commence à arriver à trouver les expériences qui pourraient permettre de répondre.
Donc c'est ça, déjà trouver
trouver une expérience qui me dise déjà si cette gravité elle est quantique ou pas. Donc vous vous souvenez de cet objet qu'on pourrait mettre à deux endroits à la fois ? Et ben on aimerait bien justement le mettre à deux endroits à la fois, puis le mélanger avec d'autres objets, on dit qu'on l'intrique, et voir si la gravité elle fait pareil ou pas au même moment. Et on commence à arriver à faire ça en laboratoire, alors on n'y est pas encore, mais on a des pistes de comment s'y prendre, notamment avec des particules qu'on fait léviter.
Ouais. Oh, ça sent un Nobel ça encore, quand ça va parvenir.
Parce qu'il
faudra du temps. Il y a beaucoup d'équipes qui travaillent sur ce genre de sujet.
Il y a beaucoup d'équipes qui travaillent sur ces questions d'intrication, de superposition d'états et de gravité quantique parce qu'on touche vraiment au fondement de la quantique et à la fois à des applications très concrètes. On parlera peut-être après d'ordinateurs quantiques qui reposent un peu sur les mêmes mécanismes. Donc il y a cette question fondamentale, il y en a une ou deux autres fondamentales, par exemple pourquoi cette onde se réduit. Et puis alors il y a des questions, moi, que j'adore, auxquelles on ne pense pas souvent dans les solides. Souvenez, on parlait de la table là et on parlait des solides. Il y a plein de solides qui nous présentent des nouveaux états incroyables auxquels on ne comprend pas grand-chose ou qu'on commence à comprendre. En gros, on se rend compte que quand on met des électrons ensemble, parfois, ils forment une sorte de collectif d'où émergent des nouveaux états. Vous voyez, le tout est plus que la somme des parties. Et donc, il y a ce truc d'émergence qui apparaît et qui, soudain, vous crée des états absolument incroyables.
Par exemple ?
Alors, par exemple, il y a la supraconductivité, qui est une espèce d'état collectif que moi, j'adore parce que je l'ai beaucoup étudié. Puis alors, il y en a des plus récents, il y en a un très à la mode en ce moment. Alors, tenez-vous bien, la topologie quantique.
Qu'est-ce que c'est que ça ? Donc,
on voit soudain, dans des métaux un peu particuliers, apparaître des états qui se protègent, qui forment des sortes de boucliers qui fait que vous pouvez essayer de les perturber, de mettre des défauts, de rajouter d'autres atomes, ils s'en fichent complètement. Ils ont des sortes de propriétés qui restent là hyper solides. Et on parle de topologie parce que c'est comme en maths, la topologie, c'est la science des nœuds. Le fait que quand vous faites un nœud d'une certaine manière, ça peut être avec n'importe quelle ficelle, de n'importe quelle manière, c'est toujours le même nœud. Il se protège un peu ce nœud. Et ben, on arrive à faire ça maintenant dans les solides, à faire des sortes de nœuds quantique.
Et ça, ça se passe comment en fait ? C'est une propriété intrinsèque
C'est une propriété des électrons. On façonne les solides un peu sur mesure, notamment par exemple avec du bismuth. Il y a des gens dans mon laboratoire qui font ça, pour arriver à leur donner des propriétés qui font que soudain les électrons, en se déplaçant, vous font des trajets topologique quantique. En se protégeant, par exemple, ils vont soudain se mettre à se balader le long des bords du matériau et à plus vous laisser perturber le matériau d'aucune manière que ce soit.
Bon.
Et ça, c'est un sujet en pleine explosion parce qu'on peut faire plein de choses très marrantes avec ça.
Alors justement, on pourrait faire quoi si on va jusqu'au bout des applications?
Alors, si on va jusqu'au bout, en électronique, on pourrait faire des composants un peu nouveaux et on pourrait notamment fabriquer des ordinateurs quantiques. Ouais. Ça, c'est un des graals actuellement dans mon domaine. Alors ces ordinateurs quantiques,
j'ai l'impression
qu'on beaucoup parler.
C'est ça, j'ai l'impression qu'on en parle depuis 20 ans quasiment.
Ouais, on en parle depuis 10 ans, allez, soyons généreux, on en parle depuis 10 ans. La science, elle prend du temps. Et donc, espérer qu'une technologie va déboucher en 6 mois ou en 1 an, c'est complètement absurde à l'échelle de temps de la science. Mais ces ordinateurs quantiques, en gros, l'idée...
Donc, ils n'existent pas encore?
Ils existent, mais ils marchent mal. Voilà, pour l'instant, c'est des prototypes en laboratoire qui ne fonctionnent pas très bien, mais qu'on améliore en permanence. Et le principe, c'est d'utiliser des objets quantiques et toutes les astuces de la quantique. On va les mettre dans plusieurs états à la fois. On va les intriquer ensemble. On va en mettre un grand nombre. Et en faisant ça, on peut trouver des nouvelles manières de calculer bien plus efficace qu'avec un ordinateur normal, alors seulement dans certains cas.
Ouais.
Et on pourrait même, et ça c'est vraiment le rêve absolu, simuler la nature. En fait, la nature, elle est régie par les lois de la quantique, hein, c'est ce qu'on s'est dit. Et donc, on pourrait s'inventer une sorte de calculatrice quantique, de simulateur quantique, qui permettrait d'imiter la nature. Et donc, pour nous, physiciens, qui permettrait de répondre à des tas de questions qu'on se pose sur la nature. Par exemple, alors on va rentrer dans du très concret. Quand on fabrique des engrais azotés, on utilise une réaction chimique qui demande aux usines de chauffer à 500 degrés. Et ça, je crois que c'est 2 ou 3% de la facture CO2 actuelle mondiale.
Absolument.
C'est une catastrophe.
C'est une cata, ouais.
Et le procédé Haber-Bosch. Mais on n'a rien d'autre. Et si on arrête ça, on tue assez vite quelques milliards de personnes sur Terre pour cause de famine. Et donc, remplacer cette réaction par une réaction qu'on pourrait faire à température ambiante, il se trouve qu'il y a des objets biologiques qui savent le faire, on ne comprend pas comment ça marche. Si on arrivait à simuler les réactions chimiques à l'origine de ça, eh ben on pourrait mieux les contrôler et trouver quel catalyseur permettrait de mieux les faire marcher ou pas. Donc, c'est un des rêves des gens qui fabriquent des ordinateurs quantiques.
Donc tout ça, recréer la nature dans des labos, quoi.
Exactement, essayer de tricher un petit peu avec la nature pour inventer d'autres façons plus économes, notamment en CO2, pour par exemple faire des engrais azoteux, ou même, pourquoi pas, pour capturer le CO2.
Mais c'est pas pour la remplacer, hein, on est d'accord.
Non,
hein.
non. C'est en général pour la singer,
limiter... C'est pour comprendre les mécanismes.
Oui, on saura pas la remplacer, évidemment. Ouais, c'est pour essayer de faire une chimie un peu plus maligne et moins polluante, par exemple.
Parce que là, on a une grosse question éthique aussi, hein, qui pourrait arriver là-dessus. Est-ce que vous avez un ordinateur quantique ou dans votre bureau, Julien Bobrov?
Non.
Il est où l'ordinateur quantique?
Il y en a plusieurs. En gros, vous allez dans maintenant n'importe quel gros labo de physique quantique ou start-up de physique quantique et vous aurez un ordinateur quantique. Alors, il peut avoir des têtes très différentes. Souvent, c'est une espèce de gros truc de plomberie comme ça qui descend du plafond. Parce que l'essentiel de l'ordinateur, c'est juste pour refroidir. La quantique, elle marche bien à basse température. Et l'ordinateur lui-même, il tient dans un tout petit microprocesseur en bas de cette grosse machine qui s'appelle un cryostat à dilution.
À quelle température il faut que ça fonctionne?
Ceux-là, ils doivent marcher à 10 millikelvin. C'est-à-dire qu'on est à 0,01 degré du zéro absolu.
Donc moins 270
degrés. Ouais, c'est-à-dire qu'on est plus de 10 000 fois plus froid que cette pièce.
Ouais, c'est ça.
C'est prodigieux.
Donc on arrive à recréer ça?
On arrive à recréer ça en laboratoire, oui. Et on est 1000 fois plus froid que n'importe où dans l'univers. Hein.
Et on pourrait imaginer avoir un petit ordinateur quantique à la maison dans quelques
années? Non, ça n'a aucun intérêt. Alors par contre, on peut imaginer être sur le cloud et utiliser, ça c'est déjà le cas. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs universités et sociétés qui ont des ordinateurs quantiques en ligne et qui vous permettent de les utiliser pour tester un peu et pour apprendre à programmer quantique, parce que c'est aussi une nouvelle façon de programmer.
Ouais. Donc il y a encore pas mal de choses à résoudre, hein, si je vous comprends bien.
Oui, il y a beaucoup de choses dans le champ des ordinateurs quantiques, dans le champ de la physique de la matière, dans le champ des nanosciences aussi. Ouais. On invente maintenant des nouveaux matériaux en faisant couche sur couche qui ont des propriétés absolument exceptionnelles.
Ouais.
Et puis tout ça, ça rejoint quand même des vraies questions de société. Par exemple, prenez les photopiles, hein, les panneaux solaires. Voilà, comment on va améliorer les panneaux solaires dans l'avenir et leur rendement? Ça, c'est une question purement quantique. Le principe même du panneau solaire, c'est de la physique quantique, c'est transformer des photons en électrons et en électricité.
Ouais.
Et ça, c'est les physiciens de la quantique qui sont à l'œuvre pour les améliorer actuellement.
Et est-ce qu'on pourrait faire quelque chose pour l'écologie justement avec la quantique, pour remplacer par exemple des métaux rares et
C'est une vraie question. Alors moi, j'ai pas envie de répondre que la quantique va tout nous résoudre. Moi, je crois pas du tout à ça. Je pense que la quantique, elle peut aider sur certaines technologies à la marge. Par exemple, on parlait des panneaux solaires, on peut parler aussi des batteries au lithium. Mais je pense que essentiellement, la physique en général et la physique quantique en particulier vont pas résoudre le problème climatique ou écologique demain. Ouais. Elles vont juste aider à la marge à mieux le comprendre et à essayer de le contrôler un peu par endroits.
Ouais. En tout cas, les physiciens s'interrogent sur la crise climatique aussi. Hein.
Ah oui, bien sûr, ça c'est un sujet chaud actuellement dans les laboratoires, un peu comme toute la société, et peut-être même encore plus, parce qu'on a peut-être encore plus conscience du problème que le commun des mortels.
Et c'est une question que vous aborderez d'ailleurs à l'Académie du Climat la semaine
prochaine. Oui, on va faire une expo qui s'appelle « Ça chauffe chez les scientifiques » à l'Académie du Climat, et après elle sera au Musée des Arts et Métiers en novembre.
Allez, on passe aux questions pour vous, Julien Bobrov. Gilles voulait savoir comment fonctionne un ordinateur quantique. Bon, vous nous l'avez expliqué.
Non, j'ai pas beaucoup expliqué. Alors, on peut lui dire peut-être, allez, en 30 secondes, pour faire un ordinateur quantique, vous prenez des objets quantiques, par exemple des atomes, que vous pouvez mettre dans deux états à la fois, un petit peu comme notre chat de Schrödinger tout à l'heure. Puis après, vous allez les accrocher entre eux pour qu'ils s'intriquent. Et là, vous avez une sorte de soupe quantique. Et si vous faites les bonnes maths quantiques, vous arriverez à le programmer.
Très bien, ça a l'air très, très simple comme ça sur le papier. Benoît, à l'échelle d'une particule, l'espace-temps existe-t-il ? Ne faut-il pas un très grand nombre de particules en interaction pour qu'un début d'espace-temps existe ?
Alors, c'est rigolo, il parle d'espace-temps. L'espace-temps, c'est la notion même au cœur de la relativité générale. Et moi, je vous ai dit qu'en quantique, on comprend rien à la relativité générale. Mm-hmm. Les deux sont un peu incompatibles. Donc, je ne sais pas bien vous parler d'espace-temps en physique quantique. En fait, je laisse ça aux gens de la relativité générale.
Très bien, vous avez fait une grimace d'ailleurs quand je vous ai posé la question. Ne faudrait-il pas plutôt penser phénomène d'interaction plutôt que penser de manière très anthropocentrée via des objets comme les particules ? Est-ce que vous comprenez la question ?
Non, je ne comprends pas la question. Alors, mais il y a derrière cette question quand même se cache la question de quel concept on peut raccrocher, comment on peut s'imaginer les choses alors qu'elles sont très impalpables et abstraites. Oui. Et ça, c'est vraiment une question au cœur de la quantique. Comment on peut s'imaginer les choses ? Et moi, c'est une question au cœur de mon travail. Moi, je travaille avec des designers et on passe notre journée à essayer de se dire, voilà, ce phénomène quantique que moi, physicien, j'ai dans ma tête,
c'est ça.
Est-ce qu'on peut le traduire autrement ? Est-ce qu'on peut le traduire avec des pliages ? Est-ce qu'on peut le traduire avec de l'image ? Est-ce qu'on peut le traduire avec de la forme ?
Ouais, et on a beaucoup de biais parce que justement, on est très anthropocentré aussi
de
la nature.
Bien sûr, on adorerait imaginer que c'est des petites billes, les électrons. Il faut les penser autrement.
Alain dit, l'électron n'est pas une onde ou une particule, mais se comporte comme une onde ou une particule, suivant les expériences qu'on lui impose.
Oui, Alain a tout à fait raison. Il est bien plus rigoureux que moi. Donc moi, je me laisse aller par des glissements de langage, parce que ça va vite ici, en disant qu'il y a cette dualité onde-particule. En fait, effectivement, c'est selon ce qu'on lui fait subir, il va se comporter comme une onde ou comme une particule.
Mmh. Ah tiens, une question écolo de Florence. La physique quantique a fortement contribué à l'augmentation de l'exploitation minière. Alors, de quelle façon ?
Je pense que c'est à travers tout ce qu'elle a permis de développer industriellement autour notamment de l'électronique.
La question des ressources, donc, demande Florence, est-elle discutée au sein de la communauté de la physique, quantique ou pas d'ailleurs ?
Oui, je pense que plus généralement, au sein de la physique, la question de l'écologie évidemment et des impacts écologiques est discutée. Et donc là, on est en train de parler du transfert industriel. C'est-à-dire que le physicien dans son labo, quand il se fait son équation de Schrödinger, il s'en fiche un petit peu et ça ne va pas avoir de gros effets sur les mines dans le monde. Ouais. Quand après les industriels s'en emparent pour construire des technologies et des applications, bah là arrivent évidemment tous les problèmes qui sont mentionnés ici dans la question de l'auditrice.
C'est quand on passe du fondamental aux applications. Ouais. Pierre-Rémy aimerait bien que vous nous parliez de l'intrication quantique et des travaux du prix Nobel. Encore un, Alain Aspect.
Oui, Alain Aspect, qui est de notre université, justement, qui est de l'université Paris-Saclay. Donc moi, j'en suis encore plus fier. Bon, l'idée en deux mots, c'est que si vous prenez deux grains de lumière, par exemple, et que vous les intriquez, c'est-à-dire que vous les mélangez de façon un peu astucieuse, ou vous les produisez ensemble, et puis qu'après, vous les séparez délicatement, et bien quand vous mesurez les propriétés de l'un, vous allez vous rendre compte qu'elles sont reliées à distance, instantanément, aux propriétés de l'autre. Comme s'ils se parlaient à distance, mais ils ne se parlent pas. Ils se partagent en quelque sorte à distance, et cette distance, elle peut être jusqu'à des milliers de kilomètres.
Dernière question d'Emery, créer de nouvelles matières avec la quantique, est-ce possible, et de nouvelles énergies ?
Oui, alors on passe notre temps, pour les matières en tous les cas, on passe notre temps à le faire. Les énergies, c'est plus compliqué, parce qu'on est un peu limité quand même par les lois de la physique. Ouais. Mais les matières, oui, on passe notre temps à le faire en laboratoire.
À partir de vendredi, donc c'est la fête de la science, jusqu'au 13 octobre, Julien Bobroff, à cette occasion, vous serez à partir de vendredi.
Ah oui, alors vendredi soir, venez tous nombreux au Musée des Arts et Métiers, je vais vous faire des quarts d'heure à Paris. Je vais vous faire des quarts d'heure quantique, ça va être assez drôle, on va improviser tous ensemble des quarts d'heure de physique quantique. Et je serai le lendemain à l'ENS Paris-Saclay pour faire la même chose l'après-midi.
Et puis je renvoie également sur votre dernier ouvrage, La physique de l'extrême, c'est aux Albin Michel, vous aviez publié sur la quantique autrement, d'ailleurs en 2020 également, chez Flammarion. Merci beaucoup
d'être
venu fêter ces 100 ans de la physique quantique avec nous.